Bonjour et bienvenue, 15h, TU 17h, ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, intense activité diplomatique à Istanbul sur le conflit ukrainien. Les premières négociations directes depuis 2022 viennent de se tenir entre Russes et Ukrainiens. Les deux camps ont discuté d'un cessez-le-feu, d'un échange de prisonniers et d'une rencontre au sommet Poutine-Zelensky. Donald Trump, lui, achève à Abu Dhabi sa tournée dans le golfe Persique. À propos de la situation à Gaza, le président américain veut en finir, dit-il, avec une guerre qui affame trop de gens. En France, qui pour prendre la présidence du parti de droite Les Républicains, c'est l'ultime jour de campagne pour les deux candidats, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Mais tout de suite et pour commencer, le fléau de la faim dans le monde, à la lumière d'un rapport, le rapport du Réseau mondial contre les crises alimentaires. Pour la sixième année de suite, ce fléau s'est aggravé. L'an dernier, quelque 295 millions de personnes en ont souffert dans plus de 50 pays, dont une trentaine en Afrique. Claire Fage, bonjour.
Bonjour.
Deux de ces pays d'Afrique, Claire, le Soudan et le Mali, figurent aux côtés de la Palestine et du Yémen parmi les plus touchés.
Oui, le Soudan atteint le niveau le plus grave, l'état de famine en juillet dernier. Mais au Mali, la situation alimentaire au camp de déplacés de Gao a également été qualifiée d'extrêmement critique. Plus généralement, 60% des populations en insécurité alimentaire vivent sur le continent africain. Première cause, les conflits et les déplacements de populations qu'ils engendrent. C'est le cas au Soudan et en République démocratique du Congo. Chacun de ces deux pays compte près de 26 millions de personnes malnutries. C'est aussi le cas du Tchad et du Niger. À l'insécurité s'ajoutent les chocs économiques qui ont entraîné une inflation alimentaire comme au Nigeria et les désordres climatiques qui ont l'an dernier perturbé la production agricole dans la Corne de l'Afrique et en Afrique australe. La situation alimentaire risque de se dégrader davantage en 2025 en raison de l'escalade des conflits et des mauvaises perspectives économiques. Ce rapport est une nouvelle démonstration que nous n'allons pas dans la bonne direction, juge le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, d'autant que ces crises prolongées sont maintenant aggravée par une autre, plus récente, souligne-t-il, la réduction catastrophique des financements d'urgence humanitaire pour répondre à ces crises.
Claire Fage, en direct dans ce journal, merci à vous. Russes et Ukrainiens se sont enfin parlé, une grande première depuis 2022, même si sur place la guerre continue. Des délégations des deux pays se sont rencontrées aujourd'hui à Istanbul pour des négociations directes sous médiation turque. La réunion est maintenant terminée. Les négociateurs indiquent avoir évoqué la possibilité d'instaurer un cessez-le-feu, d'organiser une rencontre entre les présidents Poutine et Zelensky, aussi de mettre en place un échange de prisonniers, un échange massif de prisonniers à raison de 1000 contre 1000. Il aura lieu dans les prochains jours, selon le négociateur russe. Toujours à Istanbul, cette fois dans le dossier du nucléaire iranien, de nouvelles discussions se sont tenues aujourd'hui entre d'une part l'Iran, d'autre part l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. C'est dans ce contexte que la France porte plainte contre l'Iran devant la Cour internationale de justice. La CIJ. Paris invoque la violation de son obligation de donner droit à la protection consulaire pour ses deux ressortissants toujours détenus en Iran, Cécile Collère et Jacques Paris. Tous deux sont privés de visite consulaire, a déploré ce matin sur France 2 le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Une première plainte avait été déposée en avril à Blajounaïdi.
Les familles et avocats de Cécile Collère et Jacques Paris avaient salué l'annonce de la plainte en avril, une action destinée à accroître la pression sur le régime. Un tournant majeur, disait le mois dernier la sœur de Cécile Collère. Paris qualifie Cécile Collère et Jacques Paris d'otages d'État. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, en a dit un peu plus ce matin sur France 2 à propos des motivations de cette plainte.
Ils sont retenus otages depuis 3 ans en Iran, détenus dans des conditions indignes, qui sont assimilables à de la torture, qui sont privés de ce qu'on appelle les visites consulaires, c'est-à-dire les visites par les membres de notre ambassade pour prendre de leurs nouvelles. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je dépose plainte devant la Cour internationale de justice contre l'Iran pour violation de cette protection, de son obligation de donner droit à la protection consulaire.
Cécile Collère et Jacques Paris sont officiellement les deux derniers Français détenus en Iran. Cela fait plus d'un an qu'ils n'ont pas reçu la visite de diplomates français. L'Iran a pourtant signé la Convention de Vienne qui garantit le droit à la protection consulaire.
Abla Junaidi du service international de RFI. La défense civile palestinienne fait état d'au moins 74 nouvelles victimes ce vendredi dans la bande de Gaza. Des personnes tuées dans les bombardements israéliens continuent. La situation situation dramatique des Palestiniens de Gaza a été commentée par Donald Trump à la fin de son voyage dans le Golfe Persique. Le président américain qui donne l'impression de prendre ses distances vis-à-vis d'Israël. Les habitants sont affamés, nous allons faire en sorte que cela soit réglé, a-t-il dit sans autre précision à Abu Dhabi. Sur plan des affaires, la moisson de cette tournée est riche. Elle a donné lieu à la signature de nombreux contrats juteux. Arabie Saoudite, Qatar et Émirats Arabes Unis, tous ont multiplié les commandes et les promesses d'investissement aux États-Unis. En retour, ces pays ont obtenu l'accès à des technologies de pointe, notamment dans l'intelligence artificielle, des transferts qui pourraient profiter à la Chine. Nathanaël Vitran.
L'administration Biden avait pris des mesures pour empêcher les pays tiers d'accéder aux modèles les plus avancés de semi-conducteurs et de puces électroniques pour préserver l'avance des États-Unis dans la course à l'intelligence artificielle. En ayant bien en tête que ces technologies ont aussi un usage militaire. En autorisant Riyad et Abu Dhabi à acheter aux géants américains Nvidia et AMD ce qui se fait de mieux en matière de puces, Donald Trump revient sur ce principe au profit de deals signés pays par pays. Mais dans le même temps, l'administration américaine continue d'interdire l'utilisation de ces technologies pour entraîner les intelligences artificielles chinoises. Tout le monde a en tête l'arrivée tonitruante début 2025 de DeepSeek, un chat GPT chinois aussi performant que ses rivaux américains pour une fraction du coût. Or, G42, la principale entreprise émiratie spécialisée dans l'IA, est pointée du doigt depuis longtemps aux États-Unis pour ses liens étroits avec des entreprises chinoises et notamment avec Huawei, le géant des télécoms. D'où cette inquiétude d'un possible transfert de technologie au profit de Pékin.
Nathanaël Vitran du service éco de la rédaction. Au Tchad, succès Masra accusé d'incitation à la haine. Le principal leader de l'opposition tchadienne a été arrêté ce matin à son domicile par des hommes en uniforme. Le président du parti Les Transformateurs est poursuivi suite à des affrontements meurtriers survenus mercredi dans le sud du pays. L'ONU demande au Mali d'abroger le décret dissolvant les partis politiques. Par la voix du haut commissaire aux droits de l'homme, elle appelle aussi à réfléchir à rétablir pleinement les droits politiques dans le pays. C'est à Luanda que se trouve maintenant Ali Bongo, l'ancien président du Gabon. L'ancien président déchu et sa famille ont été libérés et sont arrivés dans la capitale de l'Angola. Sous le feu des critiques après l'annonce de près de 600 suppressions de postes en France, le groupe ArcelorMittal promet finalement d'investir 1,2 milliard d'euros dans l'Hexagone. Il prévoit de construire un four électrique sur son site de Dunkerque afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Juste à côté, une autre usine de métaux investit pour réduire ses émissions de CO2. C'est Aluminium Dunkerque qui vient d'inaugurer un four économe en énergie. Reportage de Justine Fontaine.
Ils vont passer par la passerelle.
Juste avant d'entrer, on aperçoit le port où est déchargé l'alumine, puis nous voilà dans un grand hangar.
Bienvenue en fonderie, à la fonderie d'aluminium Dunkerque.
Au fond, l'aluminium liquide, rouge, déjà fondu, et devant nous, le nouveau four, le 8e, à première vue pas très différent des autres, 4 mètres de haut, 10 mètres de large, avec une gigantesque porte en métal.
Oui, il ressemble au four d'à côté. La différence, elle est pas en face, en fait. Elle est sur les côtés.
Hélène Debout, chargée de projet recyclage, nous montre des tuyaux qui entrent dans le four, chargés en gaz et en oxygène. Par rapport à un four industriel classique, la consommation d'énergie est réduite de 30%. Guillaume De Goys est le président d'Aluminium Dunkerque.
C'est un four qui va permettre de produire 20 000 tonnes d'aluminium supplémentaires chaque année. 20 000 tonnes supplémentaires, c'est à peu près 8% de notre production. C'est un investissement de 13 millions d'euros. Donc les lingots que nous allons produire sont principalement à destination du secteur automobile.
10 emplois ont été créés sur un peu plus de 700 salariés déjà en poste. Autre particularité de ce four, il sert en partie à recycler de l'aluminium, une nouveauté pour le groupe. À l'échelle du site, chaque lingot fabriqué émettra ainsi 10% de gaz à effet de serre de moins qu'avant. Justine Fontaine, Dunkerque, RFI.
Et à elle seule, l'industrie de l'aluminium représente près de 2% des émissions de CO2 dans le monde. Enfin, dans l'actualité politique en France, qui pour prendre la présidence du parti de droite, les Républicains, c'est aujourd'hui l'ultime jour de campagne pour les deux candidats, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Les plus de 120 000 adhérents les départageront dimanche. Laurent Wauquiez sera ce soir à Lyon. Le ministre intérieur, lui, effectue sa dernière réunion à Nîmes. Bonne journée sur RFI, tout de suite sur le Pont des Arts, où nous attend Nathalie Amar. Nathalie, bonjour.
Bonjour Gilles Moreau, bonne soirée à vous.
Merci.
17h10 à Paris.